VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Ici, aux États-Unis, poursuite ce vendredi à New York de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le programme d'aujourd'hui est le temps fort de la journée de jeudi avec notre correspondante sur place, Dilly Dico.
Ce vendredi s'annonce plutôt calme sur le plan africain. La quatrième journée du débat général contraste avec les trois premiers jours au cours desquels les nombreux discours des présidents africains se sont succédés. Hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, venu s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies, a déclaré que le plus grand défi de son pays est celui de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Il a poursuivi en demandant une force onusienne moins pléthorique et plus efficace en RDC. Les deux priorités de son discours étaient la MONUSCO et la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Également jeudi, le vice-président ivoirien a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara pour souligner l'importance d'une éducation de qualité qu'il a définie comme un investissement humain. Il a mis en avant la gratuité de l'enseignement de 6 à 16 ans et l'engagement de la Côte d'Ivoire à multiplier les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, ce sera au tour du Soudan, du Cap-Vert et du Lesotho de représenter le continent. Au niveau international, le discours du Venezuela est attendu en début d'après-midi compte tenu des critiques faites par le président Donald Trump mardi dernier lorsqu'il évoquait les dangers du socialisme et la situation au Venezuela. À New York, Dilly Dico, VOA Afrique.
République centrafricaine, un groupe armé centrafricain signataire de l'accord de paix avec Bangui, fait état d'une attaque menée contre une de ses bases par la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Une opération qui a ciblé la localité de Koui dans le nord-ouest du pays. Selon le général Siwo, porte-parole du mouvement des 3R, retour, réclamation, réhabilitation, l'attaque déclenchée jeudi matin s'est poursuivie jusque dans l'après-midi avec des bombardements aériens. Aucun bilan des affrontements n'a été communiqué par le porte-parole des 3R. Le mouvement 3R fait partie des 14 groupes armés signataires le 6 février d'un accord de paix avec le gouvernement centrafricain qui vise à mettre fin aux violences dans le pays depuis 2013. La lutte contre les djihadistes au Mali maintenant, 7 militaires ont été tués jeudi lors d'une embuscade dans le centre du pays, région en proie à des incursions islamistes et des violences intercommunautaires. Le bilan de l'attaque a été communiqué par les FAMA, les forces armées maliennes. Plus de précision avec Bagassi Koura.
Une mission des forces armées maliennes qui escortait un transport d'engrais entre Douenza et Sévaré a sauté sur un engin explosif artisanal avant d'être attaqué aux armes à feu, ont dit les FAMA. L'attaque est attribuée à des terroristes. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes à la faveur de la déroute de l'armée malienne. Les islamistes du Moudiao, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite d'une intervention militaire lancée en janvier 2013 et qui se poursuit jusqu'à présent. Malgré la présence de l'armée malienne, la force du G5 Sahel, l'opération française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA, les violences ont continué et même se sont propagées vers le Burkina Faso et le Niger voisins, se mêlant à des conflits intercommunautaires qui ont fait plusieurs centaines de morts.
Au Nigeria, la police de Kaduna, grande ville du nord-ouest du pays, a découvert et secouru plus de 300 garçons de nationalités différentes, dont des mineurs, victimes de tortures et de viols dans un centre d'enseignement islamique. La descente de police jeudi soir dans une maison du quartier Rigassa a conduit à la découverte des élèves et étudiants vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes sous couvert de leur apprendre le Coran et de les réhabiliter, a souligné le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo. Le propriétaire de l'école coranique et ses 6 assistants ont été arrêtés. Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a dénoncé la nomination des 15 membres de la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante, qui doit organiser la présidentielle de 2020. Les opposants ont accusé le pouvoir jeudi de se tailler une CEI sur mesure. Éric Manirakiza.
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS est une coalition des partis politiques et associations de la société civile. EDS, dans un communiqué, dénonce et condamne la démarche qualifiée de cavalière du gouvernement et son obstination à vouloir se tailler une commission électorale sur mesure. Cette coalition de l'opposition évoque les risques que fait peser sur la Côte d'Ivoire le refus de tout dialogue politique et la propension au passage en force du pouvoir. Pour EDS, le pouvoir LHDP s'arroge 11 des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante. Aucun membre du PDCI, principal parti d'opposition, ne figure dans cette commission. La crédibilité de la CI est cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, la fermeture des frontières avec le Nigeria a des effets néfastes sur l'économie nationale, notamment l'augmentation du prix de l'essence et de la contrebande, ainsi que des difficultés accrues pour les agriculteurs qui ont du mal à écouler leurs produits dans le grand marché voisin. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Les producteurs et les commerçants appellent le gouvernement au secours depuis la fermeture du poste frontalier de Sémécraqué. Les producteurs agricoles qui se retrouvent avec d'énormes quantités de récoltes sans un marché d'écoulement adéquat. Quelques-uns pensent qu'il ne faut pas baisser les bras à attendre que le Nigeria rouvre ses frontières.
Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits.
Il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébins, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons déjà les produits sur les bras, ce n'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écoulions ces produits-là? Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs.
D'autres pensent qu'avant de miroiter des marchés importants, il est nécessaire d'aller vers toutes les possibilités sur le plan national. Serge Sessou est producteur de maïs.
Comme porte de sortie, les sociétés de brasserie sont une solution. Négocier avec eux pour qu'ils précisent dans les 3 mois à venir quel stock ils peuvent enlever de nos bras. L'abattoir de Cotonou, combien de têtes de petits ruminants et de gros bétail ils peuvent enlever dans les 3 mois à venir.
Une équipe gouvernementale sillonne les champs à la rencontre des producteurs en vue de les écouter et leur faire part des dispositions prises par le gouvernement pour essayer de contenir la situation. Shadia Halimatou Assouman est le ministre de l'Industrie et du Commerce.
Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc effectivement, nous devons travailler avec les producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage.
Même si la situation paraît difficile pour beaucoup, les économistes pensent qu'elle porte en elle des avantages et des inconvénients pour une économie fiscale comme celle du Bénin. Ernest Sagou est économiste.
Si cette situation perdure, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restructuration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. À long terme, c'est profitable pour les communes béninoises, mais à court terme, nous allons souffrir, mais on n'y peut rien.
Récemment, les rois du Bénin, dans une déclaration, ont annoncé que des propositions ont été faites pour la réouverture des frontières. Ils appellent à cet effet le chef de l'État à faire la part des choses et à répondre favorablement aux attentes du président nigérian pour le maintien des relations fraternelles entre les deux pays. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Zimbabwe, la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe a été transférée de sa résidence de la capitale Harare à son village natal de Kutama dans le nord, en préparation de son enterrement prévu demain samedi. Ce transfert marque l'épilogue d'un bras de fer qui oppose depuis des semaines les proches de l'ancien chef de l'État au gouvernement de son successeur Emmerson Mnangagwa autour du lieu de sa dernière demeure. Mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe, le père de l'indépendance du pays, devait initialement reposer au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare, ainsi que le souhaitaient les autorités. Mais sa famille a finalement eu le dernier mot en obtenant qu'il soit enterré dans son village. Et pour terminer, la France se prépare à rendre hommage à son ancien président Jacques Chirac au lendemain de sa mort à l'âge de 86 ans. Un hommage populaire lié à la relation forte que l'ex-président entretenait avec les Français sera organisé dimanche en après-midi à l'Hôtel National des Invalides à Paris. Et c'est au lundi que l'ancien président sera inhumé dans un cadre strictement privé.